Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et l'après-midi commence bien puisque Franck Ferrand a de bonnes nouvelles à nous annoncer cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Et oui, vous savez que les chiffres d'audience sont tombés ce matin pour la radio. Ceux d'Europe 1 sont bons, ça on vous l'a dit depuis ce matin. Ceux d'au cœur de l'histoire le sont aussi. Vous êtes sans cesse plus nombreux à nous écouter, ça nous fait grand plaisir. Et je me fais l'interprète de toute l'équipe pour vous dire notre reconnaissance.
Et nous sommes toujours cette semaine au cœur d'une semaine spéciale énigme royale.
Oui, on pourrait même dire impériale donc aujourd'hui, puisque nous nous apprêtons à sonder les mystères de Mayerling en Autriche. Je suis ravi de recevoir l'auteur d'un ouvrage passionnant sur Rodolphe de Habsbourg, Christine Mondon.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Séverine sur l'origine de l'expression « passer l'arme à gauche ».
Expression de circonstance, ai-je besoin de le souligner. Nous avons donc rendez-vous en janvier 1889 sous la neige de Mayerling.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Laissez-moi peut-être vous rappeler les faits en trois mots. Au petit matin du 30 janvier 1889, à Mayerling, un relais de chasse couvert de neige à 36 km au sud de Vienne, on retrouve les corps sans vie de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Rodolphe, qui a 31 ans, et de sa maîtresse, la baronne Marie Wetzera, qui a tout juste 18 ans. Ils sont apparemment victimes d'un double suicide. Je dis apparemment, en réalité, le mystère le plus épais règne sur ce qui s'est vraiment passé dans le secret de cette nuit sanglante, au point que, tant d'années plus tard, l'énigme n'est toujours pas trouvée de solution définitive. Cependant, il me semble que l'essentiel est ailleurs et je tiens à dire que je ne suis pas d'accord avec la façon dont on parle habituellement de Mayerling. On a toujours tendance à présenter cet événement comme une sorte de grand drame romantique, vous savez, certes nimbé de mystère, mais concrètement sans grande importance. C'est une erreur, c'est même une triple erreur, car il s'agit non pas d'un drame romantique secondaire, mais bien d'une tragédie politique majeure. Pour saisir cela, pour en prendre la mesure, il faut peut-être un peu décoller le nez du relais de chasse de Mayerling et de toutes les incertitudes qui pèsent sur lui et retrouver à l'échelle au-dessus toutes les certitudes du moment, c'est-à-dire non seulement la position de l'archiduc Rodolphe, mais aussi la situation de l'Autriche-Hongrie dans l'Europe des années 1880. Alors, l'Autriche, tout d'abord. À cette époque, l'Empire des Habsbourg est encore la principale puissance catholique d'Europe. L'empereur François-Joseph règne à Vienne depuis le milieu du siècle, avec pour objectif affiché de durer et de faire durer. Pour y parvenir, il a dû accepter pas mal de concessions à l'intérieur de l'Empire. Ça, c'est toute l'histoire de l'autonomie hongroise, par exemple, mais aussi à l'extérieur. François-Joseph s'est incliné devant les Français à Solferino. Il s'est incliné devant les Prussiens à Sadova. Il a perdu la Lombardie, la Vénétie. C'est vrai qu'il a récupéré de petits territoires. Alors, tout ça paraît un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut savoir, simplement, c'est que la maison d'Autriche a connu des jours meilleurs et que le très brave François-Joseph a beaucoup à faire pour la maintenir à flot. En même temps, cette monarchie conservatrice, grâce à sa routine rigoureuse, a le mérite de faire tenir ensemble des peuples qui, a priori, sont quand même peu disposés à coexister. On oublie parfois de le dire, mais il y a de la tolérance dans cette politique. Il y a du respect, de la modération. Je dirais même que c'est par déférence envers les excès des Français et leur politique des nationalités que l'Autriche, en 1878, a fait alliance avec la Prusse pour constituer ce pôle stable, germanique, monarchique au cœur de l'Europe. Et bien précisément, le premier opposant à cette politique, en tout cas son adversaire le plus emblématique, n'est autre que l'archiduc Rodolphe lui-même. Aussi étrange que ça puisse paraître, l'héritier de François-Joseph rejette largement la politique de son père, politique autoritaire à l'extérieur, pan-germaniste à l'extérieur. Le jeune prince, qui va jusqu'à signer des articles sous un nom d'emprunt dans un certain nombre de gazettes républicaines, remet en cause tout à la fois le fait monarchique monarchique, l'hégémonie impériale, l'alliance prussienne elle-même. Lui se veut libéral, progressiste, socialement avancé, diplomatiquement francophile et favorable à un certain nombre de mouvements nationalistes. Nous allons revenir sur tout cela avec Christine Mondon dans un instant, bien entendu. Autant dire que Rodolphe est une épine dans le pied de son père et qu'en revanche, pour le camp adverse, il incarne à lui tout seul une forme d'espoir. Alors bien sûr, il faut tirer les conséquences de cette opposition. La République française et derrière elle les libéraux d'Europe considèrent l'archiduc Rodolphe comme une alternative à son père François-Joseph. On se dit que le jour où l'archiduc montera sur le trône, s'en sera fini de l'isolement de la France et du moins pour un temps du grand danger prussien. Vous réalisez donc l'importance de ce personnage qui est au cœur de nombreux enjeux géostratégiques et politiques en Europe. Imaginons deux minutes ce que pourrait être le changement en Europe dans l'hypothèse où Rodolphe succéderait à François-Joseph. Immédiatement, ce sont plusieurs petits peuples de l'Europe centrale et des Balkans qui réclameraient leur indépendance. La Hongrie elle-même gagnerait encore en autonomie. La Duplice, qui va devenir la Triplice avec Berlin, serait dénoncée au profit d'un rapprochement inespéré avec la France, avec l'Angleterre. Et du même coup, la Prusse, qui serait privée de son principal appui dans l'Heartland, serait contrainte à se replier sur elle-même. Tout ça c'est de l'histoire fiction, bien entendu, c'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'en Rodolphe de Habsbourg résidait la potentialité d'un changement complet de l'équilibre européen. Et après ça, évidemment, on peut se dire qu'il s'est peut-être passé à Mayerling autre chose qu'un simple drame amoureux. À ce stade, il est très important de comprendre comment le jeune Rodolphe en est venu à s'opposer à la cour. Bien sûr, la réponse est à chercher du côté de son vécu familial. Il n'a pas dû être facile, vous savez, pour ce prince qui est né en 1858, c'est-à-dire 4 ans après le mariage de ses parents, d'être l'unique garçon de François-Joseph et de Sissi. D'un côté, un père lointain, un peu rébarbatif, figé dans son idée inflexible du devoir, du service de la patrie, etc. Un empereur qui n'a pas su nouer de lien de complicité avec ce fils que par ailleurs il aime tendrement et qui lui-même ne demanderait qu'à adorer son père. Et de l'autre côté, une impératrice, Sissi, absente, fantasque, aimante sans aucun doute, mais incapable d'apporter à son fils, et ce fils qu'elle chérit de loin, disons, la stabilité, la sécurité dont il avait besoin. Un père trop dur, une mère absente, voilà l'adolescent Rodolphe qui, tout en grandissant et en devenant adulte, se met à développer des tendances à la rébellion, à la dépression, à l'autodestruction. Ça nous intéresse au premier chef, bien entendu. On y est, à l'autodestruction. Alors évidemment, c'est pas le mariage de Rodolphe à 23 ans avec la beaucoup trop sage Sophie de Belgique qui va lui permettre de trouver un équilibre. La pauvre archiduchesse, qui est devenue stérile après avoir mis au monde une petite fille, va être délaissée par son mari, qui lui préfère les beuveries, les fumeries entre bons copains. Il faut voir la dernière photo de Rodolphe, le visage émacié, la cigarette au bec, ayant jeté sur ses épaules une pelisse dont la fourrure fait songer à un manteau barbare. Rodolphe se fuit lui-même dans la chasse, il lui faut sa ration quotidienne de sang versé et surtout il se fuit dans les petites femmes, si je puis dire. Le Crown Prince est forcément un coureur de jupons insatiable. Du reste, la liaison avec la toute jeune Marie Vetsera en 1888 est d'abord apparue aux familiers du prince comme une passade de plus, une passade parmi tant d'autres. C'était une mauvaise appréciation. Rodolphe a rencontré Marie par l'entremise de la cousine naturelle de la qui s'appelle la comtesse Lariche, qui est une cousine, on va dire, par la main gauche de la famille impériale, une femme intrigante, pas recommandable, et d'emblée, dans la fraîcheur de la jeune fille, dans son regard plein de feu, sans doute dans ses emportements névrotiques aussi, le prince a trouvé un écho à son propre mal de vivre. Pour la première fois peut-être, Rodolphe tombe vraiment amoureux. Ah, voilà qui d'un seul coup remet toute l'affaire en question.
Thank you.
originale du film Meyerling sur Europe 1, une bande originale composée par Francis Lai, un film où vous retrouvez Omar Sharif et Catherine Deneuve à l'affiche. Alors, nous sommes en Autriche pour la suite de cette semaine consacrée aux énigmes royales. Franck, vous nous faites revivre le drame de Meyerling et Rodolphe, l'héritier du trône, est tombé amoureux d'une de ses conquêtes,
oui,
Marie.
Et en écoutant, en entendant quelques notes de ce film bien connu, hein, de ce film célèbre, je culpabilise un petit peu parce que j'ai conscience, en vous parlant de grande politique, de vous frustrer peut-être un peu de la part de romance qui entoure toute cette affaire, de cette atmosphère viennoise à la Strauss, le pas mat des chevaux dans la neige épaisse, les cors de chasse qui sonnent la lali pour les grands cerfs de la Wienerwald, le mobilier Biedermeier qui se fait volontiers rustique, les bouquets de roses par dizaines dont l'archiduc fait couvrir régulièrement le refuge de Meyerling et dont le parfum s'allie étrangement à celui du foyer qui crépite à ses senteurs d'orange et de cannelle qui agrémentent le vin chaud. Vous savez, c'est le Glühwein du mois de janvier à Vienne. Bien sûr que Meyerling, c'est aussi tout cela. La question, c'est de savoir si les deux amants, les Tristan et Iseult de l'affaire, si je puis dire, Rodolphe et Marie, ont le cœur à savourer tout cela. Je n'en suis pas très sûr pour tout vous dire et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Tel que je reconstitue l'enchaînement des faits dans les jours qui précèdent cette nuit terrible, c'est un enchaînement dramatique. Je vous dis franchement que l'analyse qui va venir n'engage que moi, bien entendu. Il y a tant de secrets, il y a tant de contradictions sur cette affaire et tant de témoignages, vrais et faux, que pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse prétendre détenir une vérité absolue sur le drame de Meyerling. Il y a quasiment autant d'interprétations que d'analyses. Disons seulement qu'à force de parler de ce sujet, d'en parler avec bien des spécialistes, de jauger, de confronter les arguments, de recouper tout ça, j'ai fini par me forger une conviction, voilà, et elle vaut ce qu'elle vaut. Et je sais d'ailleurs que notre invité n'est pas d'accord avec cette conviction, on y viendra tout à l'heure. D'après un certain nombre d'indices concordants, il semble que la liaison entre l'archiduc et la petite baronne, Vetsera, ait pris un tour passionnel le 13 janvier 1889. Ainsi, entre autres éléments, Marie devait offrir à Rodolphe un étui à cigarette qui porte l'inscription « Merci à l'heureux destin, 13 janvier » et c'est bien daté 13 janvier 89. Or, je précise qu'ils se connaissent depuis l'automne précédent. Pourquoi dès lors ce regain très subit ? C'est là que j'en appelle à des études qui ont été menées par un certain nombre de personnes, je pense à Gaber, je pense au docteur Gerd Holler, qui mène à cette conclusion, c'est que Marie Vetsera aurait pu être enceinte de 3 mois au moment de la tragédie. Est-ce qu'elle fait part à Rodolphe de cette nouvelle le 13 janvier 1889, ce qui pourrait expliquer l'inscription sur l'intérieur de la bague ? Pour ma part, tout ça me paraît, c'est pas une bague, d'ailleurs, c'est un étui à cigarette. Tout ça me paraît possible, disons. Et d'autant plus que dans les jours qui suivent, de nombreux témoins, à commencer par l'ambassadeur de France, qui connaît bien le couple, qui connaît surtout bien Rodolphe, il s'appelait Decret, l'ambassadeur constate que l'archiduc se montre d'une humeur légère, plaisante même, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes, dit-il. Mieux, dans la foulée du fameux 13 janvier, le prince adresse une supplique au pape, le pape c'est Léon XIII, pour lui demander d'annuler son mariage avec l'archiduchesse Stéphanie, sa triste femme, vous savez. C'est bien qu'il a l'intention de se remarier s'il demande cette annulation du mariage. Quand après cela, j'entends certains mettre en doute l'intérêt que Rodolphe portait vraiment à sa jeune maîtresse, là je crois que ça n'est pas possible. Le 27 janvier, lors d'une grande soirée à l'ambassade d'Allemagne chez le prince de Reuss, tous les témoins, c'est-à-dire que l'archiduc est en permanence très observé, c'est l'héritier du trône, tous les témoins constatent non seulement que Rodolphe passe beaucoup de temps auprès de la baronne Vetsera, mais que celle-ci néglige de saluer l'archiduchesse Stéphanie, qu'elle doit considérer d'une certaine manière comme une rivale, au mieux, au pire comme un obstacle à son avenir. À ce propos, on a coutume de présenter Marie Vetsera comme un personnage sombre, neurasthénique. Alors c'est vrai qu'elle est hantée par des pensées assez particulières, c'est même en partie ce qui a séduit Rodolphe, sans doute, mais pendant toute la durée de leur liaison, les témoins, là encore, s'accordent pour dire qu'ils la trouvaient très joyeuse et même rayonnante. Le lendemain de ce camouflet infligé en public à l'archiduchesse, l'empereur en personne, François-Joseph, convoque son archiduc de fils dans son célèbre bureau de la Hofburg. C'est une pièce que je connais bien et qui n'a rien de sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il le convoque donc pour une explication en tête à tête. Personne ne peut savoir exactement ce que se sont dit le père et le fils, mais ce que l'on sait, c'est que Rodolphe est sorti de cet entretien complètement bouleversé, plus mort que vif, nous dit un témoin, et que le soir même, notre ambassadeur, Decret, lui trouve un air ironique et absent tout à la fois, passablement inquiétant. Quant à l'empereur lui-même, son entourage l'a senti totalement bouleversé au sortir de l'entretien. Et croyez-moi, pour bouleverser l'empereur François-Joseph, il faut se lever de bonne heure, c'est pas d'un naturel très facile à bouleverser. Bref, de quoi a-t-il été question dans ce bureau ce soir-là ? De l'affront fait à une épouse irréprochable ? Oui, sans doute. De la lettre adressée par l'archiduc au Vatican ? C'est certain. Et d'autant plus que l'empereur, bien renseigné par ses services, sait déjà en ce 28 janvier que le pape n'a aucune intention de donner suite à la supplique de l'archiduc. Il semble que le père et le fils aient eu des éclats de voix à ce sujet. Il y a quand même des gens qui écoutent aux portes. Par ailleurs, il est possible, comme l'avancent de nombreux historiens, que François-Joseph ait présenté un ultimatum à Rodolphe. Soit il renonçait séance tenante à Marie Vetsera, soit il perdait ses droits héréditaires. Et là, évidemment, il y aurait de quoi justifier le bouleversement du père et du fils. À mon avis, la mine anéantie de Rodolphe au sortir de cet entretien peut s'expliquer, peut-être, par autre chose, de plus grave encore. Il n'y a absolument aucune preuve de ce que je vais vous dire maintenant. Mais il y a un faisceau d'indices. Il se trouve que 17 ans plus tôt, presque 18, le tout jeune archiduc, qui avait 14 ans, a été initié aux choses de l'amour par une femme de la cour qui elle-même avait 35 ans et qui se montrait tellement entreprenante, tellement présente chez le jeune homme que l'empereur avait dû, pour étouffer un scandale, lui barrer l'accès à la Hofburg. L'initiatrice en question, c'était la baronne Vetsera, c'était la mère de Marie. Quant à cette baronne Vetsera, on sait, et personne aujourd'hui ne remet cela en cause, qu'elle a été, elle aussi de son côté, la maîtresse du père de Rodolphe, c'est-à-dire de l'empereur François-Joseph. Vous avouerez que, d'un seul coup, notre affaire se corse et qu'elle devient extrêmement dramatique.
Beaucoup de mystères cette semaine sur Europe 1 pour ces énigmes royales. Vous découvrez peut-être ou redécouvrez cet après-midi l'affaire Mayerling. Vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux. On attend vos messages sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est la suite de cette histoire, l'affaire Mayerling que vous connaissez effectivement et que Franck Ferrand a décidé de vous raconter une nouvelle fois sur Europe 1. Alors vous nous avez laissé il y a quelques instants, Franck, avec un insoutenable suspense. Rodolphe aurait pu se marier avec potentiellement sa fille alors.
Sa fille ou sa demi-sœur.
Ou sa demi-sœur.
C'est-à-dire que la baronne Vetsera ayant été tour à tour et précisément dans les 17-18 années précédentes, la maîtresse du père, François-Joseph, et du fils, Rodolphe, évidemment, il n'est pas totalement exclu que Marie Vetsera ait pu être la demi-sœur ou la fille de Rodolphe. Vous voyez que là, ça change beaucoup les choses. Il faut savoir que le lendemain de la grosse altercation, là, on est le 29 janvier donc 1889, après avoir fait des courses dans Vienne, des courses où elle avait l'air très tendue, là, d'un seul coup, changement total d'attitude chez Marie Vetsera. Elle était avec l'impossible comtesse Lariche. Elle est conduite à la Hofburg par le cocher de l'archiduc qui est nommé Bratfisch. Or, le docteur Gerd Holler affirme que cet après-midi-là, un avortement aurait été pratiqué sur Marie Vetsera, selon la méthode cruelle de l'époque, c'est-à-dire à la sonde. Opération pratiquée sous le toit même de l'empereur et par la sage-femme impériale, après quoi Bratfisch aurait emmené la pauvre patiente au vert dans la Wienerwald, donc dans le fameux relais de chasse de Mayerling, le plus à l'écart possible. Et c'est là que, dans la fin de la soirée, ça c'est une certitude, l'archiduc Rodolphe l'a rejointe en compagnie de deux de ses plus proches amis, si tant est qu'il ait eu d'ailleurs des amis, enfin on en reparlera tout à l'heure, le comte de Hoyos et Philippe de Saxe-Cobourg. Alors, Voyez que cette version des faits est très éloignée de la grande passion romantique qui conduit deux illuminés à se donner la mort à la façon de Roméo et Juliette, si je puis dire. Reste à établir comment s'est déroulée la tragédie. Je vous livre une version. Dans cette nuit du 29 au 30 janvier, c'est toujours la version du docteur Gerthauer que je suis jusqu'ici, Rodolphe est au chevet de sa maîtresse qui donc vient de subir un avortement et dont il se demande si elle ne pourrait pas être sa fille ou sa demi-sœur, ça je n'en sais rien du tout. Or, l'opération est un échec. Marie aurait subi cette fameuse hémorragie qui expliquerait les draps complètement ensanglantés, ce qui est très difficile à expliquer s'il y a seulement eu une balle tirée dans la tempe de la jeune fille. Elle meurt dans la nuit et le prince désespéré estime que c'est le moment de mettre à exécution ses vieilles idées suicidaires, parce qu'il faut vous dire qu'il en avait déjà eu depuis très longtemps l'idée. Il rédige, vous savez, ce billet pour sa mère, pour sa femme, pour ses proches, et puis il se tire donc une balle de revolver dans la tempe droite. Voilà une version possible des faits, je ne dis pas davantage. Craignant en quelque sorte, c'est même plus de la crainte, là, c'est constatant l'horreur de sa situation, Rodolphe aurait mis fin à ses jours. On est dans une cour impériale catholique, vous imaginez l'extraordinaire gravité, bien entendu, d'un tel acte. Il y aurait donc eu, à ce moment-là, non pas double suicide, mais mort naturelle suivie de suicide simple. D'ailleurs, le rapport de police ne mentionne qu'un seul coup de feu, et ça, tous les témoins le disent. Quand le valet Locek, accompagné de Philippe de Saxe-Cobourg et du comte de Hoyos, a ouvert la porte et a découvert les deux corps, seul le crâne de l'archiduc présentait une blessure. En revanche, la partie inférieure du corps de Marie baignait dans son sang. Ça, c'est le témoignage de Locek. Naturellement, il est très difficile de tirer des conclusions définitives d'une enquête qui a été, inutile de vous dire, menée dans le plus grand secret. Le rapport de enquête a été complètement expurgé. Le rapport d'autopsie est complaisant, s'il en fut, évidemment, puisqu'il faut monter une version officielle complètement fausse. Il est impossible d'imaginer qu'un archiduc d'Autriche ait pu mettre fin à ses jours. Alors, dans un premier temps, on va prétendre que l'archiduc aurait été victime d'une apoplexie, puis d'une crise cardiaque. Et finalement, la thèse du suicide sera admise à mi-mot au bout de deux jours. Mais à ce moment-là, on dit que c'est dans un accès de folie, parce qu'il faut protéger la conscience chrétienne du feu Crown Prince. C'est que sur le coup, l'empereur n'a qu'une obsession, obtenir que le défunt héritier reçoive des obsèques religieuses. Pas question de ça pour un suicidé. La plaidoirie de François-Joseph auprès du Saint-Père va prendre la forme d'un long télégramme chiffré de 2000 mots, dont personne, pas même plus tard l'empereur Charles Ier, ne sera jamais informé. On ne sait pas ce qu'il y avait dans ce télégramme. Toujours est-il que le pape Léon XIII, qui ne pouvait que se montrer conciliant envers la monarchie austro-hongroise, vous l'imaginez bien, le pape veut bien admettre l'irresponsabilité du prince dans l'affaire et lui octroyer des funérailles religieuses qui vont avoir lieu avec tout l'imposant décorum propre aux Habsbourg le 13 février de cette même année 1889. Quant à Marie, elle a très vite été éclipsée, au propre comme au figuré, puisque deux de ses cousins, le comte Stockau et le baron Baltazzi, ont reçu ordre de porter en catimini le corps au village voisin de Heiligenkreuz, et de l'enterrer le plus vite possible dans un petit cimetière. Elle n'en sera pas moins exhumée trois fois. En 1945 par les soviétiques, en 1959 pour des analyses scientifiques et beaucoup plus récemment, en 1991, par un marchand de biens complètement illuminé. On retrouvera le corps en décembre 1992 et c'est une péripétie assez étonnante et qui en soi d'ailleurs vaudrait presque une émission à part entière. Toujours est-il que le crâne de Marie Vetsera, et ça on le possède, et ça on l'a examiné, ne présente précisément aucune blessure. Je me rends compte, évidemment, Christine Mondon, que je me suis un peu laissé embarquer dans ma théorie. Il y en a bien d'autres, et notamment il y a des théories sur des complots politiques et des assassinats. Nous y venons avec vous dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Que s'est-il vraiment passé à Meierling? Que s'est-il passé pour Rodolphe et Marie? Franck Ferrand, vous recevez pour cette émission Christine Mondon, germaniste, maître de conférences à l'université de Bordeaux-Montaigne, auteur de Rodolphe de Habsbourg, Meierling ou la fin d'un empire, paru chez Bernard Giovannangeli, éditeur en 2009. Alors Franck, cette émission, eh bien, elle fait beaucoup réagir et vous êtes très nombreux à nous laisser des messages sur Twitter et Facebook.
Il y a des questions qui arrivent d'un peu partout, mais il y en a une qui est fondamentale et qui est tout à fait d'actualité, c'est celle de Brigitte qui nous dit que des lettres de Marie Vetsera ont été retrouvées très récemment dans une banque. Alors, que sait-on de ces lettres et que nous apprennent-elles du drame de Meyerling, Christine Mondon?
Trois lettres viennent d'être retrouvées dans une banque privée de Vienne, qui est la Schöller Bank. Et d'ailleurs, que ce soit la Schöller Bank n'est pas le fruit du hasard, parce que la mère de Marie possédait un compte d'ITRE dans cette banque. Et ces trois lettres sembleraient jeter un éclairage nouveau quant à la thèse du double suicide, c'est-à-dire que c'est une lettre de Marie adressée à sa mère, à sa sœur
et qui est datée
de
fin janvier.
Elles ne sont pas datées, mais elles ont été authentifiées. Et dans ces lettres, donc, Marie dit qu'elle veut mourir auprès de Rodolphe,
et
qu'elle souhaite être enterrée à ses côtés dans le cimetière d'Allan. Elle ne donne pas d'explication, si ce n'est qu'un grand amour, un amour passionnel, qu'ils ne peuvent pas être unis dans la vie, donc elle préfère être unie avec lui dans la mort. C'est l'explication qu'elle livre à sa mère et à sa sœur. Elle lui conseille d'épouser quelqu'un par amour, alors qu'elle n'a pas pu le faire.
Alors, quand Marie dit qu'elle ne peut pas être unie dans la vie, elle peut vouloir dire que le protocole et les obligations de la cour d'Autriche l'en empêchent. Elle peut peut-être vouloir dire aussi qu'il y a des raisons suprêmes qui l'empêchent de s'unir à quelqu'un qui serait de son sang. Bon, là, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce sont des lettres qui, évidemment, penchent plutôt en faveur de la thèse du double suicide, apparemment.
Ces lettres jettent en effet un nouvel éclairage. Et la thèse du suicide, bien sûr, est plausible. Elle a toujours été plausible. Quand on sait que Rodolphe était aussi très déprimé et qu'il était obsédé par l'idée de la mort depuis son enfance. Mais ces lettres viennent bien sûr corroborer l'hypothèse du suicide. Et on sait en plus que Marie était sincère, qu'elle était profondément éprise de Rodolphe. Il lui avait offert une bague. Et cette bague portait l'inscription « Unie jusque dans la mort ». Donc je pense aussi qu'elle s'est prise au jeu.
Et elle lui avait offert ce fameux petit étui à cigarette. Et avec cette date du 13 janvier 1889, saluant l'heureux destin. Alors que veut dire là encore cette date du 13 janvier 1989? C'est très difficile à savoir.
Alors si l'on se fie aux confidences, parce que la jeune fille se confiait beaucoup à son professeur de musique... Mmh. Elle a écrit une lettre à son professeur de musique et pour elle, le 13 janvier, c'est la date où elle est devenue femme. Donc, où elle a eu une relation charnelle avec Rodolphe. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas
du
tout. Vous ne croyez
pas qu'elle ait été enceinte, donc,
non.
Par définition?
Pour ma part, je n'y crois pas. J'ai aussi interrogé un historien qui est responsable des archives de Rodolphe à Meyerling. Et pour lui, cette thèse de l'avortement ne tient pas debout.
Oui, c'est une thèse qui a été évoquée par deux médecins et en fait, il faut reconnaître qu'on a un trou dans l'agenda de Marie Vetsera dans l'après-midi du 28 janvier. Donc on ne sait pas ce qu'elle a fait de cet après-midi-là, mais on ne peut pas affirmer qu'elle ait bien été avortée. Ça, effectivement, ce n'est qu'une théorie, bien entendu, une hypothèse même.
D'ailleurs,
même
pas, il n'y a pas de preuves.
Mais c'est ça, il n'y a pas de preuves.
Toutes les preuves aussi ont disparu.
Absolument.
Il
n'y a pas non plus, alors je disais, de blessure à la tempe. Il n'y a pas de blessure sur le crâne de Marie Vetsera. Ça nous surprend davantage. Si Rodolphe l'a tué, il l'aurait frappé au cœur, c'est ça?
Si Rodolphe l'a tué, il ne l'a pas tué par balle.
Et c'est ça.
Mais par un objet contondant.
Ça paraît incroyable. Il était armé lui-même d'un...
Il était armé et en plus il avait une capsule de poison qu'il portait sur lui. Mais Marie aurait écrit sur le cendrier que l'on a retrouvé à Meyerling, plutôt une mort par revolver et non par poison, c'était plus sûr.
Ah oui, alors ce qui ne fait que semer encore un peu plus le trouble.
Ce qui sème un peu plus le trouble, d'autant plus qu'il y a eu un éventail d'hypothèses concernant la mort de Rodolphe et de Marie.
Incroyable.
Et c'est cet éventail d'hypothèses qui a semé le trouble dans les esprits et qui a semé aussi le désordre. Enfin, la dynastie a été éclaboussée
Bien
par
sûr.
Un tel drame.
Pour en finir avec ces affaires intimes et familiales, parce qu'ensuite nous verrons ce qu'il en est de la politique et de l'éventualité d'un attentat, puisque certains le croient dur comme fer, et c'est ce vers quoi vous auriez tendance à pencher vous aussi. Mais pour en finir avec les affaires intimes, on ne sait pas naturellement ce qui a bien pu se dire dans le bureau de l'empereur à la Hofburg la veille, le 27 janvier 1889, mais ce qui est certain, c'est que et Rodolphe, en sortant, Et l'empereur, une heure plus tard, lorsque ses aides de camp l'ont rejoint, était complètement ravagé et bouleversé par cet entretien. Ça n'a pas été une simple dispute entre le père et le fils, comme il y en avait eu déjà un certain nombre. Là, on est allé, semble-t-il, beaucoup plus loin. Alors, qu'ont-ils bien pu se dire? C'est très difficile.
Rodolphe avait une vie dissolue. Il avait de nombreuses maîtresses, et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout à un scénario à la Roméo et Juliette Rodolphe, puisqu'on lui prête également une liaison avec une amie de Marie-Valérie, qui était une princesse Auersperg, et qui serait tombée enceinte. Et on a d'ailleurs parlé aussi d'un duel à l'américaine, et que Rodolphe ayant tiré la mauvaise boule, la boule noire, il était obligé de se tuer dans les 6 mois. C'est aussi une version qui a circulé à la cour et dans les milieux francs-maçons.
En même temps, au fameux bal de l'ambassadeur de Prusse, on a vu à quel point Marie Vetsera, toute petite baronne sans importance, se permettait de snober l'archiduchesse Stéphanie. Donc il y a bien quelque chose en train de se nouer entre eux. Vous dites il n'y a pas de version à la Roméo et Juliette, ça je suis d'accord avec vous, ça paraît, le beau film avec Catherine Deneuve et Omar Sharif a l'air quand même bien tiré par les cheveux. En revanche, il y avait une liaison très particulière entre Rodolphe et Marie, et puis il y a les fameuses lettres dont vous nous parlez, qui viennent de sortir, et qui laissent entendre qu'il y a bien une entente morbide, en quelque sorte, entre les deux amants. Donc tout ça pose, ce qui est très étonnant, c'est qu'à mesure qu'on a plus d'arguments, on est de moins en moins sûr, de moins en moins certain de ce qui a bien pu se passer. Mais vous avouerez quand même que c'est une affaire très complexe. Or, et nous y venons maintenant, j'ai commencé cette émission en expliquant un peu la situation géopolitique et l'importance majeure de la mort de Rodolphe de Habsbourg dans l'équilibre européen de l'époque, car il était une sorte de pôle d'opposition au sein même de la cour de Vienne. Il n'était pas d'accord avec la double politique intérieure et extérieure de son père. Il était francophile, il était entre guillemets républicain, autant que peut l'être un archiduc de Habsbourg. Donc, en vérité, sa mort va créer une déflagration qui aboutira très indirectement un jour à la Première Guerre mondiale, quand même, il faut le dire. Et cette mort, elle intéressait un grand nombre de puissances en Europe. Qui aurait bien pu tuer Rodolphe de Habsbourg? C'est la question que nous allons nous poser dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Chauve-souris de Johann Strauss à l'instant sur Europe 1. Rodolphe de Habsbourg et sa maîtresse Marie Vetsera sont morts à Meyerling. Et le mystère reste entier. Franck Ferrand, vous revenez sur ce drame avec votre invité Christine Mondon, germaniste, maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne et auteur de Rodolphe de Habsbourg, Meyerling ou la fin d'un empire, paru chez Bernard Giovannangeli.
Les points de vue de Rodolphe, Christine Mondon, étaient quand même assez inattendus de la part d'un héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Il était proche des milieux républicains, il était libéral, il était francophile, il était anti-germaniste. Beaucoup de motifs pour s'opposer à son père et à sa politique.
Rodolphe a une éducation libérale.
Mais oui.
Il a eu les meilleurs professeurs de son époque. Deux l'ont profondément marqué, c'est le Karl Menger, qui était professeur d'économie, et le docteur Brehm, qui était darwiniste convaincu, athée, et qui a eu aussi une influence sur l'anticléricalisme de Rodolphe. Rodolphe avait aussi les idées de sa mère, l'impératrice Elisabeth dite Sissi, qui avait aussi des idées libérales. Donc il a baigné dans un milieu libéral, il a eu les idées de son époque, en fait.
Oui.
On pourrait dire que c'est un fils de l'Aufklärung de ce siècle des Lumières. Il a lu toute la philosophie de Feuerbach, donc il a lu Kant, donc il voulait aussi l'émancipation des peuples. Il savait que l'Empire était appelé à exploser à un moment ou à un autre, que ces nationalités ne pourraient pas coexister ensemble, que l'Empire était de plus en plus fragilisé depuis la défaite de Sadova et qu'il fallait trouver d'autres orientations à la politique de l'Empire. Alors, il a écrit de nombreux mémoires, de nombreux pamphlets anonyme, puisqu'il ne fallait pas qu'il soit reconnu, alors que bien tout sûr, le monde oui. savait que c'était de lui. Mais l'empereur n'a jamais voulu écouter ce que lui disait son fils Rodolphe. Et pour Rodolphe, le danger, c'était l'Allemagne, c'était Bismarck. Et il est vrai que c'était un danger pour l'Autriche, car Bismarck, voulant construire l'unité allemande, n'avait qu'un souci, c'était éloigner l'Autriche des affaires de l'Allemagne. Et c'est ce qu'il est parvenu à faire après le désastre de Sadowa, où l'Autriche a été chassée de la Confédération germanique. Donc à qui profite le crime s'il y a eu attentat? Bien sûr à l'Allemagne.
Et voilà, donc on pourrait penser quand même que c'est l'Allemagne, la toute nouvelle Allemagne, hein, qui vient d'être constituée en 1871, qui serait à l'origine d'un attentat, si attentat il y a eu lieu. Alors, il y a eu... Alors, quels sont les éléments qui permettent de penser que des assassins se seraient introduits dans le relais de chasse de Meyerling pour tuer l'archiduc et sa maîtresse?
Rodolphe se sentait espionné au quotidien et il aurait une réflexion, enfin, qui est relatée dans le mémorandum de Hoyos, qu'il était espionné, qu'il y avait des espions
Hoyos
tout autour.
Un de ses amis,
un de ses amis qui était venu chasser à Meyerling, qu'il y avait des espions tout autour de la forêt de Meyerling. Ce qui n'a rien d'étonnant car il était espionné jour
et
nuit.
C'est assez logique, oui.
C'est assez logique. Alors, de là à penser que ce sont des services secrets allemands, nous n'avons pas de preuves.
Alors, service secret allemand ou service secret français? Je sais que dans les milieux proches de l'ancienne famille impériale d'Autriche, on désigne toujours, on pointe du doigt notre fameux Clémenceau en disant « Clémenceau était proche de Rodolphe et Clémenceau aurait voulu se venger ». Mais venger de quoi?
Alors, Rodolphe avait rencontré Clémenceau en 1886. À cette époque, Clémenceau...
Trois ans plus tôt.
Il était un simple député. Il avait un degré de parenté avec Maurice Seps, qui était un ami de Rodolphe, pour lequel il écrivait des articles dans son journal libéral.
C'était son beau-frère.
Beau-frère. En ce qui me concerne, je ne pense pas que Clémenceau puisse être impliqué dans l'assassinat de l'archiduc Rodolphe. Ils étaient tous les deux francs-maçons, anticléricaux, détestant l'Allemagne.
Et ils avaient tout pour s'entendre.
Ils avaient tout pour s'entendre. Et en plus, Rodolphe voulait un rapprochement avec la France. Il a toujours regretté que la France puisse être isolée diplomatiquement. Et pour lui, la guerre de 1870 a été un désastre quand il a vu que la France était vaincue et que c'était l'Allemagne qui pouvait asseoir de nouveau sa puissance. Et si je me fie à Jacques Durosel, qui est tout de même un grand historien qui a écrit un livre très important sur Clémenceau, cette interprétation est absurde. Clémenceau n'a pas pu être mêlé à la mort de Rodolphe.
Alors si ça n'est pas la France, ça pourrait en revanche avouer que, ça a l'air déjà beaucoup plus convaincant, ça pourrait être la Prusse, enfin ça pourrait être l'Allemagne. Alors est-ce qu'on a des traces, est-ce qu'on a des éléments d'agents allemands qui auraient été présents à Meyerling ou dans les environs de Meyerling à ce moment-là? Est-ce qu'on a des éléments?
Il n'y a aucun élément.
Eh oui.
Il n'y a aucune preuve dans ce dossier. Tous les éléments qui ont pu exister ont disparu. Ils ont disparu par la volonté de l'empereur. L'empereur avait confié un dossier au comte Tinf, et ce dossier a brûlé lors de l'incendie de son château, comme par hasard. François-Joseph aussi avait dit qu'à sa mort, il avait tout ce qui s'était dit sur Meyerling serait dévoilé. Or, il n'y a eu aucune trace d'un dossier. Alors, est-ce que ce dossier a vraiment existé? Il y a aussi un second télégramme qui aurait été adressé au pape Léon XIII. Alors, le Vatican dit qu'il n'y a pas de trace de ce second télégramme. Donc, autant d'indices, mais le mystère aussi reste intact, puisque ces indices, on ne les trouve pas.
Vous ne croyez pas, vous, à l'intervention des Allemands dans cette affaire?
Pour ma part, je ne crois pas à l'intervention des Allemands. Je penserais davantage au fait que Rodolphe aurait pu être au courant d'un complot qui visait à destituer son père. Et comme Rodolphe était loyal vis-à-vis de l'empereur, il avait beaucoup de respect envers son père, il aurait été tué justement pour déjouer ce projet qui visait à destituer donc l'empereur François-Joseph de son trône.
Mais alors ça, ça donne une... On comprend très bien ce qui aurait pu se passer sur un plan général, politique. Le Crown Prince, apprenant que son père était en danger, aurait voulu l'informer et on l'aurait supprimé pour qu'il n'informe pas la cour, en gros, c'est ce que vous dites. Mais quid à ce moment-là de cette fameuse dispute dans le bureau de l'empereur? Ce serait des hasards? C'est-à-dire que cette espèce de précipitation d'événements dans les 48 ou 72 heures qui précèdent le drame ne serait que le fruit d'un hasard, en quelque sorte. C'est ça qui est le plus étonnant.
Certains historiens se demandent s'il y a eu entrevue entre François-Joseph et son fils. Ce sont d'après l'historien que je connais en Autriche, et maintenant c'est aussi la question que l'on se pose. Cette entrevue a-t-elle vraiment eu lieu? D'autre part, si vraiment Rodolphe et Marie étaient demi-sœurs et demi-frères, ou si Marie était la fille de Rodolphe, pourquoi l'empereur a-t-il attendu fin janvier pour dire à son fils de cesser sa
liaison? Pour le prévenir.
Mmh. Alors que on savait pertinemment depuis l'automne que Marie était amoureuse de Rodolphe. Pourquoi François-Joseph, qui était un homme responsable, parce que François-Joseph était un homme responsable, pour qui le sens du devoir primait. Donc pourquoi avoir attendu tout ce temps pour annoncer en fait à Rodolphe cette nouvelle tragique? C'est la question que je me pose. Et il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect politique. L'agitation en Hongrie aussi était sur le point d'éclater à cause d'un projet de loi concernant l'armée, où la langue allemande a prévalu, et ce qui a mécontenté ceux qui souhaitaient, en fait les libéraux comme Kalnolki, qui souhaitaient davantage d'indépendance de la Hongrie. Donc je me demande si Rodolphe n'a pas été pris dans son insu dans un complot, étant donné aussi qu'il avait un ami qui était le Jean Salvatore de Toscane, qui a beaucoup intrigué, dont la disparition est aussi très énigmatique, puisqu'il a disparu en mer, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu.
Et il est au cours d'un voyage vers l'Amérique du Sud,
il aurait disparu même sous le nom de Jean Hort, et on n'a pas retrouvé sa trace. En ce qui me concerne, il y a deux thèses qui tiennent debout. La thèse du suicide, bien sûr, du double suicide, étant donné les idées macabres de Rodolphe en 1888, il était abattu. Nous avons trois photographies de lui que j'ai pu voir à Meyerling, et c'est un homme qui paraît 20 ans de plus. Alors il coupait sa barbe, mais il avait des idées macabres, il était obsédé par l'idée d'un double suicide, il avait déjà proposé à la courtisane Mitzi Kaspar de se suicider avec lui, aussi à sa femme Stéphanie, qui avait inquiété l'épouse et qui s'était confiée auprès de François-Joseph, mais qui l'avait rassurée. Donc la thèse du suicide, bien sûr, est tout à fait possible.
Du suicide simple, disons.
Du suicide simple, mais d'un suicide par désespoir, pas par amour, par désespoir, parce qu'il savait qu'il ne serait jamais empereur, parce qu'il savait que sa vie était un échec, parce qu'il savait qu'il était malade, qu'il était atteint d'une blénorragie. Certes, ce n'était pas la syphilis. Beaucoup ont affirmé qu'il était atteint de la syphilis. C'est faux. Or, on ne peut pas, il y a une distinction entre la blénorragie et la syphilis. Il ne pouvait pas être atteint de démence puisqu'il n'avait pas la syphilis. On a dit aussi que Rodolphe se droguait. Il est vrai qu'il prenait des capsules de morphine et de cocaïne qui sont des analgésiques majeurs, donc pour calmer la douleur, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il avait une addiction à ces drogues. C'était pour calmer la douleur. Donc la thèse du suicide.
L'un n'empêche pas l'autre.
La thèse du suicide est plausible. D'un suicide par désespoir et par échec.
La thèse d'un assassinat. Alors là, il faudrait qu'on clarifie un peu. Quel assassinat alors? D'après vous?
Parce que d'après la Marie la Riche,
la comtesse la Riche, ce
faux chaperon et ce personnage qui est peu fréquentable, Rodolphe lui aurait remis une cassette. Et cette cassette, elle devait le remettre à un envoyé, donc si Rodolphe disparaissait. Et dans ses mémoires, elle écrit donc qu'elle a remis la cassette à Jean Salvatore de Toscane quelques jours après le drame de Meyerling. Et le projet était le suivant, c'est-à-dire que Rodolphe devait devenir roi de Hongrie et Jean Salvatore empereur d'Autriche. Oui. Donc, à mon sens, s'il y a eu assassinat politique, c'est parce que Rodolphe est tombé dans son insu avec les fréquentations qu'il avait dans un complot qui visait à détrôner son père et que par loyauté, il n'a pas voulu être déloyal vis-à-vis de son père et qu'on l'a supprimé donc pour ces raisons, parce qu'il en savait trop.
Est-ce qu'on sait qui pourrait être derrière ce complot?
Il y a aussi les services autrichiens. Bien sûr, au demeurant, François-Joseph ne savait peut-être pas toujours si son fils était espionné, si on peut se poser la question. Il y a aussi les milieux cléricaux, il y a aussi les milieux pan-germanistes. Car Rodolphe dérangé, bien sûr, par ses vues anti-allemandes. Donc il y a tout ce milieu pan germaniste qu'il détestait. Il avait beaucoup d'ennemis.
Que faudrait-il pour savoir définitivement la vérité? Est-ce qu'il y aurait un moyen? Est-ce que ce sont les archives du Vatican? Est-ce que c'est l'autopsie du prince? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'en savoir davantage?
Pour essayer d'en savoir davantage, il faudrait bien sûr autopsier le corps du prince, mais les nombreux membres de la famille
des Habsbourg... Oui, c'est une famille très nombreuse.
Si une famille très nombreuse s'y oppose, il faudrait aussi l'avis du gouvernement autrichien, donc ce qui n'est pas une mince affaire. Et quant aux archives du Vatican, si documents il y a, bien sûr, il faudrait pouvoir avoir accès à ces archives et pouvoir démêler les chevaux de cette affaire.
Jean Descartes nous avait lu ici des extraits du fameux télégramme adressé au pape qui permettait quand même de comprendre que la cour d'Autriche dans cette affaire avait totalement voulu occulter la vérité. Ça, c'est, on a fabriqué un scénario de toute pièce quand même.
On a fabriqué un scénario de toute pièce, et d'ailleurs François-Joseph aurait dit « J'aurais préféré bien sûr qu'on dise n'importe quoi, mais surtout pas ce suicide, et j'aurais préféré donner deux provinces de mon empire pour que en fait, l'honneur de mon fils soit intact.
» Alors il y a une dernière thèse, je la cite plutôt pour mémoire, et ça fera plaisir à Gonzague Saint-Brice qui l'a défendue en son temps, c'est la thèse de la baronne Surcouf. Faut que vous nous expliquiez en quelques mots. Ça c'est la thèse souriante, si je puis dire, et plus romantique alors.
Alors, la baronne Surcouf, qui s'est appuyée sur un favori, en fait, de la cour, a soutenu que Rodolphe et Marie s'étaient réfugiés sur l'île de Corfou. Ils avaient vécu heureux. Et que donc, l'impératrice Elisabeth, puisqu'elle venait dans sa villa à Corfou, donc rendait visite à Rodolphe et à Marie et qu'ils avaient eu des enfants. Il y a même eu un livre de Gérard Pesme. Mmh. Qui est Le Rodolphe n'est pas mort à Meyerling, c'est le titre de ce livre. Pour ma part, je n'y crois pas.
Là, on est dans la fantaisie totale.
Là, nous sommes dans la fantaisie totale.
D'autant plus que l'impératrice Sissi a été complètement dévastée par la mort de son fils. Et on peut dire qu'à partir de 1889, elle vit comme une ombre, en quelque sorte. Quant à l'empereur, aussi, il a été profondément et définitivement marqué par ce décès. Donc il n'y a aucune chance que Rodolphe ait survécu, bien entendu.
On ne peut pas admettre une telle thèse, étant donné qu'on ne peut pas avoir à l'esprit que l'empereur et l'impératrice aient pu se prêter à une telle mascarade.
Non,
l'empereur a même embrassé
et
le cercueil de son fils.
Oui, voilà, bien sûr. Le fils qui est présenté d'ailleurs avec une sorte de... On voit très bien ça dans Les Aigles foudroyés de Frédéric Mitterrand. Il est présenté avec une sorte de bandeau, hein, de bande autour du crâne. Mais il est présenté à la foule des milliers de Viennois qui viennent rendre hommage. Donc tout ça n'est pas possible en fait.
Quant à Sissi, elle a mauvaise conscience parce qu'elle s'imagine que c'est le mauvais sang des Wittelsbach qui coule à l'intérieur des veines de Rodolphe et d'où le suicide. Celui-ci a toujours eu peur de la folie.
Oui, il y a
aussi le cousin Louis II de Bavière pour lequel j'ai aussi écrit un ouvrage et dont aussi la mort est énigmatique. Et il faut aussi souligner que Rodolphe était très proche de Louis II, qu'il a une relation épistolaire très importante avec son cousin et que Louis II l'a aussi ouvert au monde de l'art et aussi à détester l'Allemagne, car Louis II détestait l'Allemagne comme Rodolphe.
Merci beaucoup Christine Mondon.
C'est
je rappelle le titre de votre ouvrage, Rodolphe de Habsbourg, Meyerling ou la fin d'un empire.
Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donnera les origines de l'expression « passer l'arme à gauche ».
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Séverine sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Pourriez-vous revenir, Franck, s'il vous plaît, sur l'origine de l'expression « passer l'arme à gauche » ?
Alors, l'origine, elle est vraiment très simple et je pourrais répondre à cette question en 10 secondes. « Passer l'arme à gauche » est une expression d'escrime qui veut dire tout simplement arracher l'arme de son adversaire, le sabre ou le fleuret. Au lieu de dire « arracher l'épée », on disait « passer l'épée à gauche ». Et donc, évidemment, quand vous étiez désarmé, en face, quand vous n'aviez plus d'armes, eh bien, vous n'étiez plus très loin de la mort. Bon. Alors, on a essayé de trouver toutes sortes d'autres explications. Il y en aurait, c'est un peu comme Meyerling, là. Je pourrais vous en citer une bonne demi-douzaine. Il y en a une, par exemple. On dit que, vous savez, autrefois, dans les tours médiévales, les escaliers tournaient dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, et le pilier était central. central. Donc l'assaillant, lorsqu'il entrait dans la forteresse, ne pouvait pas brandir son arme de la main droite par définition, puisque on était du côté du pilier, et donc il passait l'arme dans la main gauche, et à ce moment-là, pour les défenseurs, c'était plus facile, et c'était un moyen quasiment sûr de se faire tuer. Donc voilà une explication possible. Il y en a une autre qui parle de la façon de recharger les fusils sur les champs de bataille napoléoniens. Vous savez, on mettait le fusil dans la main gauche pour pouvoir, en tenant la cartouche dans la main droite et avec un bon coup de dent, on ouvrait la cartouche pour faire sortir la balle et recharger le fusil. Donc pendant ce moment-là, on passait l'arme à gauche, et au moment où l'arme était à gauche, on n'était pas en position de tirer et de se défendre. Bon, je crois, puisqu'on possède cette expression d'escrime, qu'il ne faut pas aller chercher trop loin.